Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, l'affaire Benalla prend encore plus d'ampleur. Les dossiers des directeurs de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strada, du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, sont renvoyés devant le parquet de Paris, soupçonnés sinon d'avoir menti, en tout cas tenu des déclarations contradictoires sous serment devant les sénateurs. C'est une décision du Sénat, décision scandaleuse, dit-on à La République En Marche, où l'on entonne le refrain du procès politique. Les faits dans un instant avec Élodie Forêt et l'analyse du politologue Vincent Martini. Autre controverse politique, des militaires de Sentinelle pour assurer l'ordre samedi, le jour des Gilets jaunes. Ça n'est pas leur métier, dit l'opposition. Quelle sera leur mission et ses limites? Nous verrons cela avec Emmanuel Leclerc. Brexit, oui ou non à un report de 3 mois. Dans une heure, le sommet européen. Theresa May rencontre Emmanuel Macron et le président du Conseil européen Donald Tusk, ceux qui ont durci le ton ces dernières heures. À Londres, le Parlement est un champ de bataille. Le processus démocratique britannique est en chaos, nous dit un observateur réellement inquiet. Retraite, on touche ou pas à l'âge légal de départ? On ne touche pas, dit l'homme chargé de la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, mais il ne dissipe pas toutes les inquiétudes, nous verrons. Et puis le choix de France Inter, un reportage exceptionnel dans les camps de réfugiés du Sahara occidental. C'est le plus vieux conflit au monde. Les réfugiés menacent de reprendre les armes. Dans ce journal encore, plus de 700 000 femmes en âge d'avoir un enfant à plus de 45 minutes d'une maternité. Constat inquiétant établi par le géographe de la santé Emmanuel Vigneron. Il sera avec nous. La météo. Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
Il fait beau presque partout.
Ben oui, presque partout. Seules les régions proches des côtes de la Manche resteront cet après-midi sous des nuages bien inoffensifs, alors que sur le reste du pays, le soleil va encore briller sans partage. Et puis côté température, les maximales cet après-midi seront une nouvelle fois très douces, généralement comprises entre 12 et 17 degrés. 17 degrés attendus par exemple dans la capitale.
Avec plaisir. Merci Jean-Pierre Hameau. On vous retrouve autour de 13h30. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
L'affaire Benalla n'a pas fini d'empoisonner la vie du président de la République et le Sénat joue au maximum son rôle de contre-pouvoir. Les dossiers de 3 proches collaborateurs du président sont renvoyés depuis ce matin devant le parquet de Paris. Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, Patrick Strada, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Lionel Lavergne, chef du groupe de sécurité de la présidence. Dossier renvoyé devant le parquet par le Sénat, tout comme ceux d'Alexandre Benalla et Vincent Crase. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Alors pour Crase et Benalla, ça n'est pas une surprise. Élodie, ce qui est marquant, c'est que les 5 dossiers soient renvoyés.
Oui, alors autant on le savait, hein, sur les cas d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase, les sénateurs étaient unanimes. Autant sur les 3 proches du président, il y avait dissension, notamment avec les centristes qui ne souhaitaient pas que leur dossier soit transmis au parquet. Mais c'est finalement une large majorité qui l'a emporté. Hervé Marseille, président du groupe centriste, affiche une mine désolée.
Je continue de penser qu'un certain nombre de mises en responsabilité étaient superfétatoires. Moi, je considère que quand on fait de la politique, on le fait devant les électeurs et pas nécessairement dans les prétoires.
5 dossiers transmis donc, mais avec un distinguo important hein, quand même Bruno. D'un côté, Alexandre Benalla, Vincent Crase et le directeur de cabinet Patrick Strada, incriminé pour faux témoignage. Une vidéo de l'audition de Patrick Strada a même été revisionnée ce matin. Le général Lavergne et surtout Alexis Kohler sont davantage épargnés. Leurs déclarations seront juste transmises. Une stratégie signée Gérard Larcher, selon le communiste Éric Bocquet, membre du bureau.
Les spécialistes, les anciens de ce Sénat me disent que c'est du Larcher grand art. Pour autant, ça n'enlève rien sur le fond, m'a-t-on dit. Mais oui, il y a un traitement particulier pour M. Strada et les 2 autres collaborateurs de l'Élysée.
Une stratégie pour satisfaire la commission d'enquête tout en ménageant la susceptibilité de l'Élysée. Pas forcément gagnée, les sénateurs ont beau s'en défendre. Cette saisie générale de la justice pourrait bien être perçue comme une déclaration de guerre.
Et au sein de La République En Marche, les réactions sont très vives et très rapides. Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche, décision scandaleuse. Il entonne le refrain du procès politique. Autre voix qui compte dans la majorité, celle du sénateur François Patriat.
On voit bien que autour d'atermoiements et de circonvolutions, on en voit aujourd'hui devant la justice, sans éléments factuels, des gens qui sont, pour certains, sans cause, transmis à la justice, pour d'autres sur suspicion. Et puis, on met en cause l'honneur de fonctionnaires qui, eux, ne font pas de politique. Sans doute, c'est de la part du Sénat une volonté manifeste de mettre à mal l'exécutif et au plus haut niveau. Les arrière-pensées sont purement politiques. Et la traduction n'est faite ce matin d'une volonté commune entre les différentes oppositions nationales et locales de pouvoir mener cette démarche. On va dire que le climat se tend beaucoup, que je ne suis pas sûr que le Sénat en sorte lui-même grandi.
Voilà pour ces propos recueillis par Élodie Forêt. Bonjour Vincent Martini.
Bonjour.
Politologue, maître de conférence à Polytechnique, vous sortez cette semaine chez Flammarion ce livre, Le Retour du Prince. Cette affaire Benalla, on est parti du comportement plus que contestable d'un collaborateur méconnu du président. On arrive à des ennuis judiciaires pour le secrétaire général de l'Élysée. L'ampleur est plus grande chaque semaine.
L'ampleur de demande chaque semaine, elle est surprenante parce que, en effet, comme vous l'avez rappelé, on est parti d'une affaire Benalla dont on disait qu'elle était pour le moins une péripétie d'un collaborateur dont on passe son temps à dire qu'on en parle trop, et en réalité, elle est vraiment devenue une affaire d'État. On avait beaucoup reproché au journal Le Monde d'avoir utilisé ce qualificatif à l'époque, mais on est vraiment dans cette situation.
De votre point de vue, le Sénat joue son rôle de contre-pouvoir, va au-delà?
Ce qui est très intéressant, c'est que le Sénat joue un rôle nouveau de contre-pouvoir. À ma connaissance, dans l'histoire du Sénat, on ne peut pas dire que le Sénat a été un grand contre-pouvoir sur le plan politique. Il avait été parfois une façon de modérer les ardeurs de l'Assemblée nationale, mais on ne lui connaissait pas, justement, ce rôle de contre-pouvoir. Il me semble que ce qui est intéressant dans ce nouveau monde qu'avait promis Emmanuel Macron, qui est un monde d'effondrement des contre-pouvoirs, eh bien, la politique ayant horreur du vide, elle fait émerger un contre-pouvoir à partir de rien, puisqu'encore une fois, les sénateurs n'étaient pas vraiment connus pour être des grands opposants politiques à la majorité. Donc là, on a une situation tout à fait nouvelle, oui.
De votre point de vue, ils peuvent rester à l'Élysée?
Vous parlez des collaborateurs de Macron.
Oui.
Ça va poser un problème, j'allais dire, qui est politique. Sur le plan légal, Alexis Kohler n'est pas mis en cause directement. Il est juste renvoyé pour information. Il faut voir ce que la justice va vouloir décider. Mais il me semble que là, il y a une difficulté politique pour M. Kohler, puisque c'est le plus proche collaborateur du président de la République. C'est sa sentinelle, d'une certaine manière. Et peut-être que le président va considérer qu'il va être difficile de travailler avec lui dans ces conditions.
Merci Vincent Martini d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle les références de votre livre qui sort donc cette semaine chez Flammarion, Le Retour du Prince. Et bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
L'autre controverse du moment concerne la journée de manifestation de samedi. Des soldats de l'opération Sentinelle appelés en renfort pour assurer la sécurité publique, alors que le ministre de l'Intérieur a ce matin rappelé la consigne d'impunité zéro. Ce n'est pas leur métier aux soldats, dit l'opposition extrême droite, extrême gauche, opposition chez les Républicains. Au fond, pour essayer d'aller un peu plus loin, quel rôle sont appelés à jouer ces soldats? Quelle est leur mission? Quelle est la limite de leur mission?
Eh bien, ces soldats, avec leur seul fusil d'assaut comme équipement, ne seront jamais en première ligne, selon le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, face aux policiers ce matin lors de l'installation du nouveau préfet de police de Paris.
Vous pourrez vous appuyer sur les militaires de Sentinelle, qui ne doivent en aucun cas participer au maintien de l'ordre. Pour assurer la protection des biens et des personnes contre le terrorisme, ils sont là. Ils sont toujours là. Ils le font depuis tant d'années, avec un dévouement total à la nation. Ils le font dans des conditions rendues plus difficiles encore ces dernières semaines. Mais ils sont là, chaque semaine, chaque samedi, et ils seront encore présents samedi prochain. Nous leur sommes particulièrement reconnaissants.
Bon, alors que vont-ils faire, Emmanuel?
Eh bien, comme le 8 décembre dernier, les unités Sentinelles seront plus nombreuses que d'habitude sur le terrain pour patrouiller dans des quartiers où se trouvent des bâtiments officiels, et pas seulement à Paris. Au lieu d'avoir en permanence, par exemple, et en statique, 3 fourgons de CRS ou de gendarmes mobiles, pour les sites les plus sensibles, il n'y en aura que 2, auxquels vous ajoutez 1 ou 2 véhicules de Sentinelles dans les parages. L'idée étant de récupérer un certain nombre de forces, selon l'entourage du ministre, qui, elles, iront faire du maintien de l'ordre et de l'intervention si ça dégénère. Les militaires de Sentinelle seront chargés en fait de donner l'alerte au cas où, en entendant des renforts de police ou de gendarmerie.
Merci Emmanuel Leclerc. Un groupe en difficulté économique, mais un patron qui quitte ses fonctions avec un important bonus. C'est l'histoire de Technip et prise de position du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Inacceptable qu'il parte avec un bonus, ce qui raconte aussi un petit peu l'impuissance des ministres sur ce type de sujet.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Report du Brexit à la fin juin au lieu de la fin mars. Les Européens vont-ils accepter cette demande britannique? La question est au cœur du sommet de Bruxelles qui s'ouvre tout à l'heure. Et ce qu'on attend de ce sommet, c'est sinon une réponse ferme, en tout cas une tendance. Bonjour Angélique Boin. Angélique, correspondante de France Inter en direct de Bruxelles, on l'entendra dans un instant. D'abord, écoutons une voix qui compte en Europe, celle de la chancelière Angela Merkel, devant les députés allemands à Berlin. Un court report du Brexit, pourquoi pas, dit la chancelière, mais il faut tout faire avant tout pour éviter un Brexit dur.
Je suis toujours autant convaincue que nous avons besoin d'une solution ordonnée à la sortie du Royaume-Uni. Pas seulement dans l'intérêt du Royaume-Uni, mais aussi dans l'intérêt de l'Allemagne et dans celui des 27 États membres. Je suis convaincue que le problème central, c'est la question irlandaise, les relations entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Si on veut un retrait ordonné, on doit mettre toutes nos forces jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière heure, pour obtenir une solution commune ordonnée.
Angela Merkel, traduction et voix off, Anaïs Feuga, Angélique, comme promis, on vous retrouve. Bonjour.
Bonjour.
Le sommet européen commence dans moins d'une heure. La session consacrée au Brexit en principe à 15h30. Alors hier, qu'elle vienne de France ou du président du Conseil européen Donald Tusk, les déclarations allaient dans ce sens. Report pourquoi pas, à condition que les Britanniques adoptent l'accord de divorce négocié pendant de longs mois. Accord rejeté à deux reprises à Londres, autant dire que ce n'est pas gagné. Au fond, l'impression, Angélique Boin, c'est que les Européens durcissent le ton.
Oui, ils sont exaspérés en fait, et ça se ressent dans les différents points de presse. Bien que la fatigue du Brexit soit de plus en plus visible et justifiée, a dit par exemple hier le président du Conseil européen, Donald Tusk, nous ne pouvons renoncer à rechercher jusqu'au tout dernier moment une solution positive. Les 27 vont donc une nouvelle fois faire des efforts tout à l'heure pour essayer d'aider la dirigeante britannique à faire passer cet accord de retrait le plus vite possible. Mais il y a des conditions, hein. Si celui-ci n'est pas validé par son Parlement avant le 29 mars, dans 8 jours, on replonge dans l'inconnu, ou alors on va tout droit vers un no deal. Et là-dessus aussi, le ton change clairement. De plus en plus d'États membres, dont la France, envisage clairement ce no deal. Sans garantie suffisante, on préférera une sortie sans accord, a par exemple dit hier le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
Angélique, une des forces des Européens depuis le début des négociations, c'est d'avancer unis. Est-ce qu'il y a un risque de division dans les semaines, presque les heures cruciales qui sont devant nous?
Et bien sûr, l'idée d'un report du Brexit au-delà des élections européennes, oui, clairement. Et là, c'est entre la France et l'Allemagne que cela va sans doute se jouer. Le président Macron a d'ailleurs avancé son arrivée ici pour un tête-à-tête avec Angela Merkel. Vous l'avez entendu, elle veut tout faire pour éviter le no deal. Du côté de l'Élysée, on estime en revanche qu'il faut aussi savoir, en quelque sorte, siffler la fin de la partie. On va donc discuter très serré sur les conditions et la date de cet éventuel report. Un Brexit au-delà du 23 mai, cela obligerait les Britanniques à participer aux élections. On aurait donc un pays qui a voté pour quitter l'Europe et qui doit élire des députés, situation qui ferait, et certains pays le redoutent, le jeu des populistes.
Merci Angélique Bon, en direct de Bruxelles. À Londres maintenant, ces dernières semaines, les députés ont dit deux fois non et massivement à l'accord de divorce négocié entre Theresa May et les 27. Ils ont dit non également à un Brexit sans aucun accord, mais ils ne disent oui à rien, aucune majorité positive. Hier à la télévision, Theresa May leur a dit en substance, en prenant les électeurs à témoin, si le Brexit patine, c'est de votre faute les députés, et elle leur demande d'adopter lors d'un troisième vote le texte rejeté deux fois. Est-ce qu'elle finira par démissionner? Est-ce qu'il faut redonner la parole au peuple sur l'accord de divorce ou sur le principe même du Brexit? Est-ce que la solution passe par des législatives ou par un Brexit dur? Sur ce moment hallucinant de l'histoire politique britannique, Marie-Pierre Véraud a interrogé l'observateur politique Jonathan Fenby.
Il y a un gros problème pour la démocratie en Angleterre, il n'y a pas de doute, parce que la Chambre des communes s'est prononcée deux fois. Le Premier ministre refuse d'accepter et continue à dire qu'elle peut faire passer son accord. On ne voit pas où elle aura les votes à la Chambre des communes. En même temps, on a la pression pour un deuxième référendum. Il faut dire que le processus démocratique britannique est en chaos actuellement. Et ceci à quelques jours de la décision la plus importante que le pays affronte depuis des décennies. Donc, il y a toute une question de la démocratie, le fonctionnement de la démocratie en Grande-Bretagne, à part cette question absolument cruciale du Brexit lui-même. Si vous voulez, il n'y a pas de majorité, parce que beaucoup des députés, ils sont pour rester dans l'Union européenne ou pour un Brexit douce, mais ils ont toujours peur qu'on va dire « Ah, vous refusez d'accepter la décision du peuple dans le référendum ». Et il y a une certaine vérité dans ce qu'il dit Madame May, c'est que le système britannique marche seulement si on a une majorité claire et des décisions claires à la Chambre des communes. Et c'est ça qui manque sur cette cette décision cruciale en ce moment.
Et les dernières informations sur ce dossier, on ne se dirige pas vers une majorité pour voter le texte que souhaite Theresa May. Les unionistes nord-irlandais ne se rapprochent pas d'un vote positif. Et puis il y aura donc cet après-midi une rencontre entre Theresa May et Emmanuel Macron ainsi que Donald Tusk, le président du Conseil européen. Pour mémoire, nous sommes à 2 mois des élections européennes. Ce sera le 26 mai. Le 18-20 est consacré à ce contexte européen. Fabienne Sintès et ses invités en direct d'une ville ô combien symbolique aux Pays-Bas, celle de Maastricht. Nous sommes à présent avec l'invité du journal de 13h, le géographe Emmanuel Vigneron. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Géographe spécialiste de la santé. Et ce constat que vous dressez cartes à l'appui dans le journal Le Monde, le nombre de femmes qui vivent à plus de 3/4 d'une maternité a doublé en 20 ans.
Oui, on peut dire qu'il a doublé en 20 ans, quels que soient les calculs auxquels on procède, quels que soient les résultats qu'on obtient. Il n'en reste pas moins que, en calculant de exactement la même manière, le nombre de femmes à plus de 45 minutes en 1997 et aujourd'hui, on passe de 2% à 5%. Ces chiffres sont cohérents avec d'autres. Si on regarde des chiffres annoncés par l'adresse qui parlent apparemment de moins de femmes, mais ça fait quand même 3% des femmes, 3% pour les uns, 5% pour les autres. Tout ça, c'est un peu des arguties et des finasseries de calcul.
Alors tout ça parce que
les experts,
tout ça parce que le nombre de maternités a fermé, monsieur Vigneron. La France a perdu 338 maternités en un peu plus de 20 ans. Est-ce qu'il y a des régions particulièrement concernées?
Ah oui, naturellement, ce sont sinon des régions, du moins des zones au sein des régions à l'échelle nationale, les zones rurales, la moyenne montagne, la France des petites villes ou de villes moyennes qui sont devenues des petites villes et qui perdent leur maternité comme elles perdent d'autres services, naturellement. Alors on peut en citer plein aux quatre coins du pays, à Coutances, dans la Manche, à Saint-Claude, dans le Jura, vous voyez, je passe d'un bout de la France à l'autre, des Ardennes à l'Ariège, etc., etc. Enfin, on peut se promener à travers la France. La France, disons, traditionnelle, rurale, celle aussi qui aujourd'hui quand même manifeste.
Oui, ça croise un peu la carte des gilets jaunes. 45 minutes, est-ce que de votre point de vue, vous êtes à la fois géographe et très bon connaisseur de la santé, 45 oui. minutes, on a dépassé un stade critique, c'est dangereux de ne pas avoir de maternité à moins de 45 minutes de chez soi?
C'est une très bonne question. Dans le domaine de la santé, en termes d'accessibilité, il n'y a que très peu de normes. Mais il y a une norme pour l'accouchement qui est communément admise depuis plus de 30 ans, suite à des recommandations qui avaient été données par les plus éminents des gynécologues obstétriciens du temps.
Et la norme
est
de...
Et c'était cette norme de 45 minutes. Mm-hmm. Donc ce seuil de 45 minutes vaut. Du reste, on se rend compte par de nombreux travaux, et moi j'ai passé ma vie à des travaux sur les distances et l'effet de la distance sur le recours aux services, on se rend compte qu'il c'est un invariant. 45 minutes, ça veut dire 1h30 aller-retour.
Oui.
Et c'est un peu un invariant des déplacements humains.
Alors ça, c'est le constat sombre. Il y a un constat un peu plus rassurant, c'est que les maternités qui demeurent sont de plus en plus sécurisées, compétentes, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'elles ont des personnels et des niveaux d'encadrement plus importants.
Et oui, il faut reconnaître là l'effort des obstétriciens eux-mêmes, de la profession qui s'est réorganisée, qui a défini des degrés de qualification et qui les applique. Et tout ça est une bonne chose.
Et mais du coup, au final, vous diriez que les femmes enceintes qui nous écoutent, par exemple, en ce moment, le constat est plutôt rassurant, plutôt celui d'une dégradation. Que dire ?
Eh bien, tout dépend de l'endroit où vivent ces femmes, mais si on s'adresse aux femmes de françaises, quelles qu'elles soient, eh bien, évidemment, il y a à la fois du gain et puis il y a des inquiétudes, car la distance est aussi un facteur de qualité. Si on est trop loin des soins, on consomme plus. Donc, en fait, on en est rendu à un point où les menaces sont très réelles, les difficultés deviennent grandes, et donc il faut s'accorder sur des solutions qui fassent que toutes les femmes aient les mêmes
normes,
les mêmes normes car tout le monde est français et c'est aussi la grandeur du pays que de s'assurer qu'aucun de ses membres n'est laissé sur le bas-côté.
Merci.
C'est facile. Hein.
merci Emmanuel Vigneron d'avoir répondu à nos questions et on retrouve donc en détail vos cartes et vos chiffres dans le journal Le Monde. Allez, après les maternités, les retraites et un personnage qui se penche sur notre avenir à tous, le haut commissaire à la réforme des retraites, invité ce matin de France Inter. Alors Jean-Paul Delevoye a beau avoir un physique d'armoire à glace, jusque-là il avait évolué très délicatement dans ce champ de mine qu'est la réforme des retraites. Depuis octobre, il travaille à la mise en place d'un système unique, à points, en tenant cette promesse d'Emmanuel Macron, on ne touche pas à l'âge légal de départ à la retraite, 62 ans. Et puis patatras, ces derniers jours, des ministres laissent entendre que peut-être, en fait, on pourrait y toucher aux 62 ans. Alors oui ou non ? Réponse de Jean-Paul Delevoye ce matin sur France Inter, au micro de Léa Salamé et Nicolas Demorand. Vous allez voir, au début c'est parfaitement clair, puis ça se gâte.
La liberté de partir restera 62 ans.
En gros, vous allez mettre un système d'incitation en disant « Oui, vous pouvez partir à 62 ans, mais vous allez gagner beaucoup moins que si vous partiez à 63 ans et demi. »
C'est le cas aujourd'hui. Et l'on voit bien qu'un certain nombre de personnes calculent pour partir l'âge à taux plein. Partir à 63, 64, 65 ans dans le système actuel. Il y a maintenant un sujet dépendance qui va ouvrir. Est-ce que c'est un financement CSG ? Est-ce que c'est un financement d'une journée de RTT ? Est-ce que c'est un financement d'un recul d'âge de retraite ?
Donc on est bien d'accord sur la réforme retraite 62 ans, sur la réforme dépendance pour trouver de l'argent pour financer la dépendance, on verra. C'est bien ça ce que
voilà. Alors, Laurent Kramer, nous avons besoin d'explications. Jean-Paul Delevoye dit deux choses apparemment contradictoires. Retraite, âge légal, 62 ans, pas touche, c'est le principe, mais pour financer la dépendance, on pourrait tout de même y toucher. Les retraites ne vont pas seulement servir à financer nos retraites, mais aussi la dépendance ?
Comment trouver 10 ou 20 milliards peut-être pour financer l'arrivée des baby-boomers dans ce qu'on appelle le grand âge à l'horizon 2030? Ils atteindront l'âge de 85 ans, celui où la dépendance coûte le plus cher avec des moyens financiers que l'on sait aujourd'hui très limités dans les EHPAD. Il y a donc urgence à trouver une nouvelle forme de financement, mais l'équation économique c'est quelque peu compliqué pour le gouvernement. Pas question d'augmenter une nouvelle fois la CSG pour financer la dépendance. Le ras-le-bol fiscal côté salarié et patron barre également la route à l'arrivée d'une nouvelle cotisation sur la feuille de salaire. Un nouveau jour de solidarité ou de RTT travaillé ne suffirait pas non plus à résoudre l'équation. Reste donc l'idée de travailler plus longtemps pour financer nos futurs séjours en maison de retraite. Raisonnement simple sur le papier, mais techniquement beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Cela devrait en réalité ressembler, d'un point de vue comptable, à une décote sur les retraites pour financer la dépendance. Mais le gouvernement ne le présente pas sous ce jour. Libre aux salariés ensuite de prolonger donc de quelques trimestres leur activité pour retrouver une pension à taux plein.
Est-ce que nous rédigerons ce printemps notre dernière déclaration de revenus ? Des propos du ministre Gérald Darmanin mardi peuvent laisser penser que oui, il l'avait déjà dit d'ailleurs, et ce serait au fond une suite logique de la mise en place du prélèvement à la source. Bonjour Hélène Philippe.
Bonjour.
Alors la déclaration de revenus, ce grand rituel de notre vie de citoyen, est-ce qu'elle va disparaître l'année prochaine ?
Ben ça se pourrait, oui, c'est l'objectif. Papier. Oui. Si et seulement si le ministère avance suffisamment dans le travail de transformation de l'administration fiscale. C'est le message ce matin de l'entourage de Gérald Darmanin. Les mots sont choisis avec prudence, mais c'est vrai que c'est la suite logique après le prélèvement à la source. C'est un chantier complexe à mettre en œuvre car il faut tenir compte du profil des contribuables, indépendants, salariés. Il y a les informations qui remontent par un tiers collecteur comme les salaires et puis il y a les autres. Il y a aussi la grande question des crédits d'impôt. Il faudrait qu'ils soient contemporains pour qu'on puisse se passer d'une déclaration de revenus. C'est bien le projet du ministre, mais la bascule aurait un coût lors de l'année de transition d'à peu près 10 milliards d'euros selon un rapport de l'Inspection Générale des Finances. Il y aura donc des arbitrages politiques. La suppression de la déclaration de revenus pourrait se faire par tranche, par étape, selon le profil des contribuables pour atténuer les difficultés techniques. Ce qui fait que cela pourrait être une réalité pour certains dès 2020. Mais personne n'y échappera cette année en tout cas.
Et on parle bien des déclarations papier et web, les deux. C'est un mur de sable à présent. Ce mur de sable de 2700 km, emblème d'un des plus vieux conflits au monde, celui au Sahara occidental. D'un côté du mur, sur 80% du territoire, il y a le Maroc, et de l'autre côté, le Front Polisario et sa République Sahraoui. Le conflit a éclaté en 1976, un an après la fin de la colonisation espagnole. Eh bien, des négociations reprennent aujourd'hui, à Genève, sous l'égide de l'ONU. Il est grand temps, dans les camps de réfugiés sahraouis, 170 000 personnes, une partie menace menace de reprendre la guerre tant elle est taboue. Reportage exceptionnel dans ces camps pour France Inter, Hugo Flotatalon.
Dans ce désert de sable et de cailloux, assis dans une tente, Omar raconte être né ici, dans les camps, il y a 21 ans. En espagnol, la langue laissée par l'ancienne colonie, l'aîné de cette famille de 6 enfants dit ne penser qu'à une chose, partir.
Je ne veux pas que les petits vivent ce que j'ai vécu ici, parce qu'il n'y a pas de futur ici.
Omar aurait pu étudier en Algérie, mais a tout abandonné pour aider sa famille et survit grâce à un petit job de vendeur et l'aide humanitaire. Une détresse parmi d'autres que déplore la gouverneure du camp, Myriam Salek Ramda.
Ils vivent dans une misère chronique alors qu'ils voient leurs richesses spoliées, volées, vendues par les forces marocaines. Donc ils se disent « retournons à la guerre, mourons tous ou prenons notre liberté et notre indépendance ».
La guerre pour en finir, la phrase revient dans chaque conversation. Une situation dont se dit conscient le ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraoui démocratique, membre du Front Polisario, Mohamed Salem Salek. Il parle d'urgence avant de retourner aux négociations.
Et si aujourd'hui le Front Polisario a un problème, le seul problème c'est ça. C'est convaincre. Comment convaincre la population sahraoui de tenir encore
La politique d'éducation pour tous semble pour l'instant préserver les camps de la violence, mais dans une région marquée par le terrorisme, personne ne peut dire ici combien de temps ça durera.
Voilà pour ce reportage au Sahara occidental à la télévision ce soir. L'actualité internationale également, pas la plus joyeuse. M6 diffuse Leaving Neverland, documentaire sur Michael Jackson. Deux hommes y accusent le chanteur mort en 2009 de les avoir agressés sexuellement quand ils étaient enfants. Et leur avocat annonce au Figaro qu'un nouveau procès pour pédophilie se tiendrait cet été. De quoi s'agit-il, Loïc Piala ?
Il s'agit en réalité d'un procès en appel. En 2013, Wade Robson, l'un des deux témoins du documentaire Leaving Neverland, a lancé une procédure contre MJJ Productions et MJJ Ventures, les deux sociétés du chanteur. En décembre 2017, un juge de Los Angeles a débouté le plaignant, écartant la responsabilité des deux entreprises, sans toutefois se prononcer sur le fond de l'affaire, la réalité ou pas des agressions du roi de la pop. Vince Finaldi, l'avocat de Robson et un spécialiste des cas d'agression sur mineurs, avait prévenu qu'il ferait appel de cette décision. Selon lui, l'affaire sera donc rejugée cet été. En 2005, Robson avait témoigné en faveur de la star lors d'un autre procès pour pédophilie. Alors le clan Jackson et de nombreux fans l'accusent aujourd'hui de mentir dans l'espoir d'un peu de gloire et de beaucoup d'argent. « Mon client acceptera le dédommagement que le jury estimera juste, quel qu'il soit », a déclaré son avocat au quotidien USA Today le mois dernier. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Ce documentaire est le séisme aux États-Unis. C'est également à voir sur franceinter.fr.
La météo, avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Jean-Pierre Hameau.
Grande douceur cet après-midi, excepté près des côtes de la Manche, où les maximales seront comprises entre 12 et 14 degrés. Comptez 12 à Caen, 13 à Alençon et 14 degrés à Brest, Cherbourg et Rouen. Prévoyez 15 à 20 degrés dans les autres régions, avec 15 à Nancy et Rennes, 16 à Châteauroux, 17 dans la capitale, 18 à Montpellier et 20 degrés du côté du Gard. Côté ciel, notre pays bénéficie toujours d'une bonne protection anticyclonique. Seules les régions situées dans un grand quart nord-ouest resteront sous les nuages. En revanche, le temps sera sec et partout ailleurs, vous allez profiter d'un excellent ensoleillement. Demain, la situation météo ne bougera pas, temps sec et nuageux près de la Manche, soleil et douceur partout ailleurs.